Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme du jour, notre série Europa Voice, dans laquelle on discute aujourd'hui de l'impact de la guerre menée par la Russie en Ukraine sur la politique européenne, l'UE qui semble en effet quasiment pour la première fois depuis sa création disposée à prendre des mesures fortes et à présenter un front uni. Christophe Mallet nous fera aussi un point complet sur l'actualité sportive. Et puis avec Nicolas Perpich, comme tous les jeudis, on parlera de la semaine économique en Australie. En fin d'émission, on retrouvera Audrey Bourget. Elle nous fera découvrir une formidable pâtisserie se trouvant dans la banlieue de Melbourne. On en salive d'avance, mais patience, car pour l'instant, c'est l'heure du journal. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 3 mars 2022. À Sydney, des centaines de milliers de personnes ont évacué cette nuit et dans la matinée alors que plusieurs secteurs à l'ouest et au sud de la ville sont menacés par des risques d'inondation. En Ukraine, 8e jour de guerre. Hier, les Russes, pour la première fois, ont visé des cibles se trouvant à l'ouest du pays, tandis que leurs forces armées tentent d'isoler la capitale Kiev du reste du pays et de l'Europe. Enfin, en France, le président Emmanuel Macron a prononcé une allocution à la télévision hier soir dans laquelle il assure que la France n'est pas en guerre avec la Russie. Le déluge qui s'abat depuis le début de la semaine sur la côte est de l'Australie s'est déplacé vers le sud de la Nouvelle-Galles du Sud. Il frappe actuellement Sydney, la Hunter Valley, mais également la Central Coast. Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, a indiqué qu'environ 500 000 personnes à travers tout l'État sont soumises à des ordres d'évacuation. Il a par ailleurs précisé à propos de la région de Hawkesbury que la crue de la rivière pourrait être pire encore que l'an dernier. On l'écoute.
We do expect particularly in the Hawkesbury region that the floods will be worse than they were last year and that we see more torrential rain and flooding in Newcastle and Hunter over the course of the day.
Dean Naramore, du bureau de météorologie indique pour sa part que les fortes précipitations attendues aujourd'hui sur le littoral représentent un véritable danger à prendre très au sérieux. La quantité de pluie attendue sur la journée étant bien supérieure aux précédentes prévisions faites par le bureau de météorologie.
We're expecting 50 to 150 millimetres today in that part of the world. And we could also see isolated totals in excess of 200 millimetres, particularly with any thunderstorms.
Plus au nord, la ville de Ballina, il y a deux jours, s'est retrouvée entièrement recouverte d'eau. Des milliers de logements ont été inondés, au moins 6 000 d'après les services d'urgence. La maire de la commune, Sharon Cadwallader, a par ailleurs précisé que le réseau téléphonique n'est toujours pas 100% opérationnel et qu'il n'y a pour l'instant plus aucun accès à Internet.
I'm managing to getting a few text messages through to people that are asking me, could I go and check on their parents, elderly parents? I haven't been able to contact them. I'm doing my best to get around as many as I can. Because all the lines, they can't get through to emergency services. We're in the thick of it here. And it's just terrible to think that in this day and age that we haven't got a better communication system when we're so reliant on it.
Le sud-est du Queensland, après lui aussi avoir déjà subi des inondations massives dans la nuit de dimanche à lundi dernier, se prépare de nouveau aujourd'hui à affronter une météo effroyable. Des vents très violents, de la grêle et des pluies torrentielles sont de nouveau attendues dans l'après-midi, et ce alors que sur place, de nombreux habitants avaient commencé à estimer et réparer les dégâts causés par les inondations ces derniers jours. À ce stade, à travers toute l'Australie, plus de 150 000 demandes de soutien financier ont déjà été soumises au gouvernement fédéral. Une aide, bien sûr, indispensable pour la reconstruction, mais l'Association australienne des psychologues estime par ailleurs qu'un soutien à la santé mentale devrait également être mis en place et à la disposition des victimes de ces inondations, en rappelant d'ailleurs que cela existe déjà pour les victimes des feux de brousse et des incendies. Rappelons à ce sujet que si vous êtes concerné par ces inondations, vous pouvez prendre contact avec Lifeline au 13 11 14. Enfin, pour clore ce chapitre australien, l'Australie occidentale, aujourd'hui, rouvre enfin ses frontières après s'être isolée du monde et du reste de l'Australie pendant des mois et des mois. Il faut toutefois remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir se rendre dans cet État, avoir reçu 3 doses de vaccin anti-Covid et effectuer un test antigénique à l'arrivée. Parmi les premiers à s'être rendus sur place, le leader des travaillistes, Anthony Albanese, il s'était engagé à se rendre en Australie occidentale dès que cela serait possible, d'autant que plusieurs circonscriptions électorales de cet État, actuellement aux mains de la coalition, pourraient basculer dans le camp travailliste lors de la prochaine élection fédérale. Huitième jour de guerre en Ukraine où les forces russes, en marge des bombardements effectués sur plusieurs grandes villes du pays, notamment la capitale Kiev, ont commencé hier pour la première fois depuis le début de ce conflit à choisir pour cible des zones situées plus à l'ouest du pays. On écoute tout de suite les explications de Stéphane Sioran, correspondant de RFI en Ukraine.
La nuit dernière, il y a eu un bombardement dans une ville qui s'appelle Jytomyr. C'est une ville d'environ 200 000 habitants à 150 km à l'ouest de Kiev. Et ce bombardement a touché une maternité où, selon les estimations, il aurait fait au moins 2 morts. Donc toucher une maternité, c'est un crime de guerre. Et ce type de bombardement a eu lieu à plusieurs reprises sur d'autres infrastructures civiles dans le pays. Donc on a l'impression que face à la résistance des Ukrainiens, il y a une certaine forme de frustration de la part des généraux russes qui ont lancé un nouveau type d'offensive qui cible moins forcément les infrastructures militaires, mais de plus en plus les infrastructures civiles comme les administrations, comme les écoles, les universités et donc à certains endroits des hôpitaux. Donc le nombre de victimes est en train d'augmenter, le nombre de victimes civiles dans le pays serait peut-être de 2000 morts depuis le début du conflit, ça a été communiqué par le gouvernement ukrainien. Par ailleurs, on note qu'il y a un isolement de plus en plus important de la capitale. Vous parliez donc du nord-ouest de l'Ukraine. Le nord-ouest de l'Ukraine, c'est là où il y a la plus grande ville, la plus grande route du pays qui relie la Pologne à Kiev. Or, plusieurs localités sur cette route ont été attaquées et on a l'impression que l'armée russe est en train d'essayer d'isoler Kiev de la Pologne et donc de l'Europe, ce qui pourrait couper à terme les approvisionnements en biens, en nourriture, mais également en armes, parce qu'il faut savoir qu'il y a des camions qui font le trajet entre Kiev et la frontière polonaise pour ramener les armes qui ont été livrées par les différents pays européens. Donc en ce moment, la capitale Kiev n'est pas encore entourée, mais la pince est petit à petit en train de se refermer et on ne peut plus pénétrer dans la capitale que par le sud.
La pince se referme petit à petit, mais ça n'est pas sans conséquence sur le contingent russe. Le ministère de la Défense à Moscou a pour la première fois hier reconnu des pertes assez importantes subies par les forces armées russes en Ukraine. On fait le point sur le sujet avec Anissa El-Jabri, correspondante de RFI à Moscou.
498 morts, 1587 blessés dans l'opération spéciale, comme dit le ministère de la Défense, avant de dresser son propre bilan côté ukrainien, très supérieur selon Moscou. Pas un mot sur les prisonniers, en revanche, et pourtant, les images de jeunes soldats autorisés par les Ukrainiens à appeler leur famille en Russie sont encore visibles sur Internet, même si le filet sur la liberté d'expression se resserre de plus en plus. Enfants de 7 et 10 ans arrêtés pour avoir manifesté avec leurs parents en Sibérie, arrestation en pagaille lors des rares protestations. Navalny a beau appeler à manifester tous les soirs à 19h à Moscou, les prisons sont désormais pleines. Les deuxièmes pourparlers russo-ukrainiens débutent avec une proposition russe inédite, un cessez-le-feu est mis sur la table. Pourtant, en Russie, l'inquiétude monte encore. Un conseil de la fédération qui n'était pas prévu à l'agenda va avoir lieu ce vendredi. La rumeur enfle. Le pouvoir, à cause de la guerre, pourrait prononcer la loi martiale avec à la clé censure militaire, interdiction totale de tout rassemblement et manifestation et de toute organisation considérée comme minant la sécurité du pays. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. C'est là le principal message délivré hier soir par le président français Emmanuel Macron au cours de sa troisième allocution télévisée depuis le début de cette guerre en Ukraine. Le chef de l'État français a aussi témoigné de sa solidarité à l'égard du peuple ukrainien et de son président, mais il a aussi indiqué qu'il continuait de dialoguer très régulièrement avec Vladimir Poutine. Je vous propose d'écouter un extrait de cette intervention télévisée.
Initiatives diplomatiques, sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie, soutien à la population ukrainienne vont ainsi se poursuivre et s'intensifier avec pour objectif d'obtenir l'arrêt des combats. Et pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix, et qui le font savoir en Russie et ailleurs. Pour cela, que si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine, pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons.
La guerre en Ukraine, c'était donc le seul et unique sujet abordé par le président lors de cette intervention télévisée. Il n'a en revanche pas, comme certains l'attendaient peut-être, fait acte de candidature pour l'élection présidentielle et se présentait donc à un second mandat. Il n'a pourtant plus que 2 jours pour le faire. Effectivement, toutes les déclarations doivent être soumises d'ici à vendredi au plus tard. En revanche, pour Christiane Taubira, c'est terminé. L'ancienne ministre de la Justice, qui s'est lancée dans la course à la présidentielle à la mi-janvier, après être sortie gagnante de la primaire populaire, a finalement décidé de jeter l'éponge. Elle n'était pas parvenue à obtenir les 500 parrainages de maire nécessaires pour pouvoir concourir à l'élection à la fonction suprême. À Paris, Aurélien Devernoy pour RFI.
De l'émotion, mais aussi un peu de colère dans la voix de Christiane Taubira au moment d'annoncer sa décision de renoncer à sa candidature. Colère contre le système des parrainages, colère aussi contre les partis de gauche ayant selon elle fait en sorte qu'elle ne les obtienne pas.
Cet empêchement, évidemment, est la marque de forces politiques qui ont saisi cette collecte de parrainages pour rendre difficile cette candidature qui manifestement les bouscule.
Dans le viseur de Christiane Taubira, les socialistes accusés d'avoir torpillé sa candidature, mais aussi les écologistes ayant renoncé à l'union des gauches. Déçue, la désormais ex-candidate veut prendre le temps de réfléchir à un éventuel ralliement.
Dans les prochaines semaines, j'exprimerai publiquement mon vote du premier tour.
Un vote qui suscite déjà des convoitises. Christiane Taubira a en effet construit un réseau de militants et de soutiens dont les voix pourraient s'avérer précieuses pour la présidentielle. Mais l'ancienne ministre de la Justice voit plus loin.
Pour les législatives, se développent déjà des dynamiques de maisons communes. Nous allons immobiliser nos forces.
Toujours convaincue de la nécessité de rapprochement des gauches, Christiane Taubira entend désormais repartir de la base à l'occasion des législatives, en créant par exemple une structure politique favorisant l'union, sans besoin de se rallier derrière un parti.
Avant de faire un point sur la météo du jour, de toute façon, vous l'imaginez bien, elle est globalement très humide aujourd'hui. Signalons également la disparition d'une star du petit écran français, Jean-Pierre Pernaut, qui a présenté le journal de 13h sur TF1 pendant plus de 30 ans, est décédé hier à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer des poumons dont il avait lui-même révélé l'existence quelques mois plus tôt dans une vidéo postée sur Twitter. Revenons maintenant à la météo en Australie. Du soleil à Perth et Adelaide, où il fait respectivement 27 et 33 degrés. Soleil également à Melbourne, 30 degrés. En revanche, il pleut et il va pleuvoir très fortement aujourd'hui à Sydney, où le thermomètre affiche 24 degrés. Conditions similaires attendues à Wollongong et à Newcastle. 21 degrés à Canberra, où on prévoit également de la pluie, peut-être un peu moins intense. 28 degrés à Brisbane, où des vents violents vont balayer la ville. Et enfin, 33 degrés à Darwin, où le ciel est nuageux ce jeudi.
Journal des sports en ce jeudi. On commence notre édition avec la crise entre la Russie et l'Ukraine qui s'invite dans le milieu des Jeux paralympiques. Ces Jeux paralympiques qui débutent d'ici quelques jours à Pékin. Eh bien, la trêve paralympique n'aura pas lieu. On en est quasiment certain. Ce qui veut dire que la question se pose, pourquoi la Russie et la Biélorussie seront présents dans ces Jeux paralympiques? La réponse du président du Comité international paralympique, Andrew Parson.
There is no nexus between the recent actions of the Russian and Belarusian governments and our membership obligations. In particular, there currently is no membership obligation for an IPC member to ensure compliance with the Olympic truce. This means that within the current IPC rules framework, suspending either NPC Russia or NPC Belarus for breaching the Olympic truce is something that would be overturned in a German court of law. The measures are as follows. The RPC and NPC Belarus will participate as neutrals at the Beijing 2022 Paralympic Winter Games under the following conditions. All their athletes support personnel will participate in an individual capacity as neutral athletes support personnel. They will compete under the Paralympic flag and the Paralympic anthem. They will not be included in the medals table. The RPC delegation must cover the RPC symbol on their uniforms in all official ceremonies and sporting competitions. The Belarus delegation must cover the Belarus flag on their uniforms in all official ceremonies and sporting competitions. All technical officials attending the games from Russia and Belarus will be listed as neutrals under the Paralympic flag, as will coaches from the respective countries involved with other teams. I cannot even imagine how painful it is to be Ukrainian now. I try to sympathize, I try to empathize. It's difficult. My country is not at war. Again, my family is not hiding themselves in the subways of the capital of my nation. We do recognize the seriousness and the magnitude of the situation. We just try to separate politics from sport.
Voilà donc Andrew Parson sur les raisons de pourquoi nous verrons donc les athlètes à la fois russes et biélorusses se joindre aux athlètes ukrainiens et aux athlètes de la planète entière dans ces Jeux paralympiques. On l'aura compris, une décision donc impossible à exécuter. La trêve paralympique n'aura donc pas lieu pour cette période entre la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Allez, on va parler de sport maintenant, mais sur le terrain, on va débuter avec du football. Hier, c'était la deuxième demi-finale de la Coupe de France et un très beau résultat pour les Canaries, les Nantais, qui donc se qualifient 22 ans après leur dernière finale de Coupe de France. À l'époque, ils avaient battu Calais 2-1. Et bien, Nantes, il y a quelques minutes, a éliminé Monaco 2-2 à la fin du temps réglementaire et 4-2 au bout des tirs au but. Les Canaries nantais rejoignent l'OGC Nice qui, lui, s'était défait du petit pousset de cette compétition, le FC Versailles. On part en Espagne pour conclure notre journal des sports et un coup de projecteur sur un club qui, eh bien, a une performance incroyable cette saison. Il est deuxième, c'est le FC Séville, deuxième dauphin donc du Real Madrid. C'est pas forcément une surprise, Olivier Durand.
C'est une équipe très régulière, le FC Séville, très très régulière. Ils sont régulièrement en Ligue des Champions. Ils ont gagné, on se rappelle, la Ligue Europa encore une fois il y a deux saisons maintenant, en pleine, après la pandémie. C'est une équipe qui a toujours de bons joueurs, qui recrute très bien. Là, ils ont pris Martial au mercato d'hiver. C'est un groupe très complet. C'est une équipe toujours là, le FC Séville. Il leur manque peut-être de franchir un dernier palier, d'aller un quart de finale, demi-finale de Ligue des Champions. Pour aller peut-être prétendre, pourquoi pas, un titre dans les 2-3 prochaines années. Mais c'est une équipe très très bien organisée, avec un super coach, avec un directeur sportif peut-être le plus connu de tous les directeurs sportifs du monde, c'est-à-dire Monchi, et qui recrute très bien, qui n'a pas de problème d'argent. C'est une équipe solide, c'est une équipe vraiment où il fait bon en plus aller pour un joueur, pour se relancer, pour gagner aussi quelques titres. Et c'est une équipe toujours compliquée. Maintenant, il y a ce gap, il y a cet écart toujours avec les trois gros, Atlético, Real et Barça. Mais en tout cas, ils ont bien géré leur derby andalou et ils sont vraiment confortés à la deuxième place, et sauf une catastrophe, on les verra en Ligue des Champions l'an prochain.
Voilà donc pour le sport en ce jeudi. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
C'est sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
Allez, comme chaque semaine, on va décrypter l'actualité économique avec notre très bon collègue depuis le WA de Poole Western Australia, Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Alors, l'actualité économique cette semaine, c'est d'abord des très bons signes économiques pour le pays cette semaine.
Oui, voilà, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis presque 50 ans, 46 ans pour être précis. Alors, on a vu la meilleure croissance économique depuis 1976, donc 3,4% pour les trois mois jusqu'à la fin du mois de décembre. Ça veut dire que maintenant, l'économie est 3,4% plus grand qu'avant la pandémie. Donc ça, c'est assez impressionnant, puisqu'on a vu pas mal de confinements et d'autres problèmes économiques assez sévères pendant un bon moment là. Et puis, on voit que non seulement il y a ça, mais le produit intérieur brut du pays maintenant est beaucoup plus grand, comme je viens de dire, qu'avant la pandémie en 2019. Et on voit que il y a des résultats assez positifs depuis la fin des confinements qu'on a vus en Nouvelle-Galles du Sud et au Victoria, qui étaient plus ou moins en octobre. C'est là qu'il y a eu vraiment beaucoup de croissance. Alors, il y a des business qui ont dû laisser partir pas mal de leurs employés, de les virer ou de leur demander de réduire leurs heures. Et maintenant, tout ça, ça commence à changer. Mais même pendant les confinements, on a vu que les domiciles, ils ont continué à dépenser de l'argent. Alors, ils ont dépensé de l'argent en achetant des choses à l'Internet, des habits, d'autres biens qui ont été amenés chez eux. Mais depuis que les confinements ont fini, particulièrement au Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud, les gens ont commencé à dépenser sur des choses comme bien sûr les hôtels, les cafés, les restaurants, où on a vu que les dépenses sont montées par 24,3%. Et même pour d'autres choses comme les divertissements et la culture, les gens commencent à sortir beaucoup plus. Donc, c'est monté par 17,1% juste pendant ces trois mois jusqu'à la fin du mois de décembre. Bien sûr, il y a eu plus de dépenses sur la santé, 7,9%. Alors, Là, c'est une histoire qui varie un peu autour du pays parce que il y a des États qui maintenant sortent des restrictions économiques et de santé, et il y en a d'autres qui sont encore en plein dedans, comme l'Australie-Occidentale, bien sûr, où là, il vient de lever la frontière cette semaine et il y a encore beaucoup de restrictions sanitaires et économiques. Donc, une partie du pays qui s'ouvre économiquement et l'autre qui reste assez fermée encore.
Ouais, tout à fait. Ça reste vraiment une cassure nette hein, entre au sein même de l'Australie. Allez, direction maintenant ce qui occupe un peu tous les esprits à travers la planète, hein, la crise entre la Russie et l'Ukraine et le gouvernement de la Banque centrale australienne, Philip Lowe, qui lui s'est exprimé justement sur cette invasion. Il avait quoi à dire exactement ?
Eh bien voilà, c'est la Banque centrale qui bien sûr guide l'économie australienne vis-à-vis les taux d'intérêt et d'autres choses comme ça. Depuis un moment, il y a le gouverneur de la Banque centrale, Philip Lowe, qui dit que l'économie australienne commence à se remettre des effets de la pandémie. Il y avait des très bons signes, comme on vient d'en parler, en fait. Mais il dit que maintenant, bien sûr, la guerre en Ukraine, c'est une source extrêmement importante d'incertitude. Et on a probablement tous remarqué, quand on va pour faire le plein d'essence, ça coûte beaucoup plus cher maintenant, plus que 2 $ un peu partout en Australie. Le prix de l'essence, du brut, qui vient de monter énormément. Mais là, Philip Lowe, il parle du problème de l'inflation, cette hausse des prix d'énergie, comme l'essence, ça fait monter l'inflation plus généralement dans l'économie, parce que là, on a des disruptions au marché mondial, aux supply chains, comme on dit, donc aux chaînes des approvisionnements, des chaînes logistiques. Et on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour résoudre ces problèmes-là. C'est ça l'incertitude, c'est ça le problème énorme avec cette guerre en Ukraine d'un point de vue économique et comment ça frappe des pays si lointains comme nous en Australie. Donc, impossible de déterminer cette question. Donc, c'est une question sans fin vraiment là. Et on ne sait pas à quel point les prix vont arrêter de monter parce que c'est sûr que la Banque centrale ici veut un taux d'inflation entre 2 et 3%, mais là, Dr. Lowe, il voit des signes où ce taux d'inflation pourrait monter plus haut que les 3%. Et là, c'est à ce moment-là que ça devient assez inquiétant. Il a aussi noté que le prix des maisons continue à monter rapidement ici en Australie, mais malgré tout ça, la Banque centrale a décidé de garder le taux d'intérêt à 0,1%, ce qui est très, très bas, le plus bas qu'on a jamais vu. Donc, il a dit que c'est vraiment une période d'attente, là. On regarde, on attend pour voir ce qui va se passer en Ukraine et on regarde les conséquences. Donc, c'est sûr qu'ils vont ils vont lever les taux d'intérêt à un moment cette année, mais là, à cause du fait qu'il y a tellement d'incertitudes, il veut attendre, il veut juste voir, regarder, et puis après, ils vont décider s'il faut agir du point de vue avec le taux d'intérêt ou s'ils vont recommencer à acheter des obligations parce qu'ils avaient arrêté ce qu'ils avaient commencé pendant la pandémie où ils avaient acheté des centaines de millions d'obligations gouvernementales pour essayer de stimuler l'économie. Et donc, si cette guerre en Ukraine continue et ça fait freiner l'économie, ils vont peut-être recommencer ça. Donc, c'est une période comme on n'a jamais vu. On commençait à sortir de cette période de crise économique et sanitaire avec la pandémie. Et là, tout de suite, on entre dans une autre. Donc, c'est assez compliqué. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Ouais, absolument. Ainsi va l'économie en ce moment. C'est vrai que ça a toujours été une roue qui tourne. Et merci en tout cas à chaque fois, chaque semaine, Nicolas, de nous la décrypter. Merci, Nicolas.
Merci beaucoup, Christophe.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande.
Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Europa Voice numéro 92 déjà, et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
92, on avance, hein, on avance vers la centième. Et donc là, aujourd'hui, bien entendu, on va parler de l'Ukraine, on va essayer de faire un point sur ce qui se passe en Ukraine, d'élargir un petit peu le débat et de comprendre ce que cette guerre donc entre la Russie et l'Ukraine aux portes de l'Union européenne, ce que ça veut dire justement pour l'Union européenne. Tout d'abord, je pense que c'était important qu'on fasse un rappel peut-être un point sur les grandes sanctions internationales qui vont à l'encontre de la Russie, justement à cause de leur action en Ukraine.
Oui, Christophe, effectivement, on a l'Union européenne qui a, j'allais dire, mis du temps à démarrer en termes de réaction et des sanctions, mais depuis quelques jours, on voit véritablement une avalanche de sanctions, et je reprendrai là les mots du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. C'est les mesures les plus dures, en fait, jamais prises par l'Union européenne. En deux mots, en fait, ce que prévoient ces sanctions, c'est surtout de limiter, mais drastiquement, comme jamais vu, hein, encore une fois, l'accès des autorités, banques et grandes entreprises russes au marché de capitaux européens. C'est en fait l'argent, c'est le nerf de la guerre, toujours Christophe, mais c'est aussi le nerf de la capacité de nuisance que peut avoir l'Union européenne, justement, par rapport aux Russes, avant même qu'il y ait une intervention militaire européenne. Alors, par rapport à ces grandes mesures, il faut aussi rappeler un événement historique qui est important, c'est que c'est pas non plus la première fois que l'Union européenne, Christophe, prend des mesures financières à l'encontre de la Russie, parce que rappelez-vous, quand il y avait eu l'annexion de la Crimée en 2004, les 27 de l'Union européenne avaient déjà en fait sanctionné plusieurs personnalités et entités russes. Donc c'est quelque chose, j'allais dire, qui est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est l'ampleur de ces sanctions. Dans ces sanctions, si on veut résumer ces sanctions économiques, financières, on peut d'abord parler de qui elles concernent. Alors, elles concernent évidemment les députés russes qui ont voté en faveur de la reconnaissance des territoires séparatistes. Donc ça, c'est évidemment très symbolique, mais en même temps, s'attaquer aux racines du mal d'une certaine façon, bah, c'est aussi un signal fort en termes de communication. Puis après, vous avez aussi des entités russes entières, des banques par exemple qui sont liées au pouvoir russe, à l'État russe, la banque de développement, une grande entreprise. Vous avez aussi des personnes et des entités en dehors de ces députés russes qui ont porté atteinte à l'intégrité territoriale ukrainienne. Vous avez des commandants des forces russes, vous avez des personnes qualifiées qu'on pourrait qualifier par membres importants de la propagande russe. Donc vous avez tout un tas d'entités, de personnes physiques et morales que vous ciblez par rapport à ces sanctions. Donc, en plus de ces sanctions-là, vous avez aussi les pays, indépendamment de l'Union européenne, qui eux-mêmes sanctionnent la Russie. Par exemple, on a l'Allemagne qui a annoncé la suspension des autorisations du projet de gazoduc Nord Stream 2. On va peut-être en reparler, mais c'est un virement historique de la part de l'Allemagne. Par rapport à sa réelle politique par rapport à l'économie, c'est-à-dire qu'on avait toujours une Allemagne où, en fait, la réalité économique primait d'une certaine façon un petit peu sur les impératifs politiques. Donc on avait une relation qui était cordiale, ou en tout cas constructive, entre la Russie et l'Allemagne. Donc c'est un revirement par rapport à ça, mais c'est surtout un revirement parce que on sait que l'Allemagne étant un acteur qui est encore très dépendant du gaz, du charbon, et beaucoup moins sur l'énergie nucléaire, on sait que ça va avoir aussi des conséquences pour l'Allemagne. Donc c'est une véritable prise de risque. Et après.
D'accord. Et d'ailleurs, l'Allemagne, on en reparle un petit peu plus tard dans cet épisode d'Europa Voice, parce que vous parlez d'un revirement total, hein, de l'Allemagne sur certaines pratiques également.
Oui, effectivement, ces sanctions, et ça, c'est vrai pour l'Allemagne, mais c'est vrai pour toute l'Union européenne, Christophe, ces sanctions financières, économiques, elles représentent aussi, en termes là de construction politique, un véritable virage à 180 degrés pour l'Allemagne, évidemment, mais aussi pour toute l'Union européenne. Sans vouloir spoiler la fin du film, est-ce que les Russes ont accéléré, Christophe, ou pas, la construction d'une Europe politique? C'est véritablement, pour moi, la question. C'est est-ce que, malgré eux, là où on attend encore les Européens sur les questions de défense et de sécurité commune, sur ce projet politique, alors qu'on a une Europe économique pour l'instant, est-ce que finalement, cette guerre provoquée par les Russes est-elle en train, à son insu, d'accélérer la construction d'une Europe politique. C'est pour moi tout le débat.
Ouais, et puis je rajouterais même dessus une Europe militaire, parce que on sait que les Anglais et les Britanniques étaient un frein à cette armée européenne, à cette défense européenne. L'Union européenne s'est entre guillemets libérée du fardeau britannique, en tout cas sur ce point de vue-là. Et aujourd'hui, les faits prouvent qu'il y aurait peut-être, il y aura sûrement besoin d'une armée européenne. Et ça, je pense que également, c'est quelque chose qui devra forcément changer dans les années à venir.
C'est surtout une... on le voit hein, même à l'échelle... Je vais prendre des exemples peut-être même un peu anecdotiques, pas forcément de l'Union européenne, mais même de pays amis de l'Union européenne. La Finlande, qui est un pays ami de l'Union européenne, a aussi opéré un revirement par rapport au matériel qui va être de guerre, qui va être fourni à l'Ukraine. La Suisse aussi, non pas pays de l'Union européenne, mais partenaire économique d'une certaine façon aussi a cassé sa position de neutralité et en plus de ça, vous avez raison Christophe, l'Union européenne, alors là c'est la question qu'on va pouvoir se poser dans les prochains numéros, mais c'est est-ce que cette Union européenne de la défense et donc cette armée européenne, est-ce qu'elle va véritablement voir le jour? En fait, la question c'est quel véhicule organisationnel, politique entre l'Union européenne et l'OTAN, quel véhicule va véritablement être construit sur les bases de ce conflit provoqué par la Russie? Est-ce que ça va être une réaffirmation de l'OTAN à une époque où elle avait été pointée du doigt, notamment par le grand frère américain? Et là aussi, c'est un revirement historique, hein, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus, et ça n'a pas changé avec Biden, mais ne sont plus le gendarme du monde. Donc les États-Unis étant step down d'une certaine façon, est-ce que l'OTAN a encore véritablement un sens? Pourras-tu assurer ses missions de sécurité, de paix et d'armée? Ou est-ce que maintenant il ne reste plus qu'un acteur cohérent qui est l'Union européenne? Donc c'est véritablement pour moi le point central, et les sanctions ne font, si vous voulez, ne sont qu'un canal pour accompagner cette construction politique à venir.
Ouais, tout à fait. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est le timing de cette guerre. Il y a cette guerre aux portes de l'Europe, et ça remet en question énormément de choses au niveau européen. Ça remet aussi pas mal de débats au niveau national, français, on va dire ça. Surtout avec cette élection présidentielle qui arrive, et les candidats, pas candidats, qui ont tous plus ou moins pris position, tous presque sauf un, j'allais dire.
Oui, on a effectivement on a deux éléments, je pense, Christophe. On a un président pas encore candidat, Emmanuel Macron, qui lui a endossé véritablement ses habits de chef des armées et est en train vraiment d'être aux premières loges de la diplomatie, des tractations avec Zelensky et Poutine. Donc Emmanuel Macron, lui, clairement. Et encore une fois, hein, qui n'est pas candidat à ce moment-là à sa propre succession, il a expliqué que la France, à l'instar de tous les autres pays européens, devra prendre sa part sur plein d'aspects, notamment sur celui de l'accueil des réfugiés et l'assistance portée à la population ukrainienne. Là aussi, Christophe, c'est intéressant parce que au-delà de cet aspect de déclaratif par rapport aux réfugiés ukrainiens, ça met le doigt encore sur un autre domaine où pour l'instant, on n'a pas de cohérence en Europe, qui est celui des migrations, des frontières. On l'avait vu et revu hein, quand on avait parlé de Lampedusa, quand on parlait de ces migrants. On a toujours ce même problème, c'est-à-dire que les migrants arrivent aux portes de l'Italie pour Lampedusa, et puis après, on n'a pas de cohérence, on n'a pas de projet politique commun pour accueillir ces migrants, pour, d'une certaine façon, ce que l'Europe travaille comme un homme. Et donc, en plus de cette question de l'Europe de la défense, de l'armée, on a aussi cette question qui va se poser avec ces réfugiés ukrainiens, et on le voit hein, d'ailleurs, l'Europe qu'on pourrait qualifier d'occidentale est vraiment amenée à se prononcer à l'heure où des pays comme la Pologne, la Moldavie, d'autres pays d'Europe de l'Est ouvrent leurs frontières, la Géorgie ouvre leurs frontières aux réfugiés ukrainiens. Donc on a Emmanuel Macron qui a endossé ce rôle-là par rapport à la question des réfugiés, et puis on a en vrai, comme vous l'avez dit, hein, tous sauf un, c'est-à-dire Éric Zemmour, qui lui, pour l'instant, est le seul à ne pas vouloir accueillir des réfugiés ukrainiens. Là, je le cite, hein, au risque de déstabiliser la France qui est déjà submergée, je dis bien submergée par l'immigration. Et donc, ils préfèrent que ces réfugiés soient, et encore une fois, je le cite, hein, en Pologne, pays qu'il faut aider à faire face. Et donc, c'est intéressant aussi parce que on le voit, hein, sur cette question-là, Emmanuel Macron a tout de même réussi aussi son pari de d'avoir la classe politique, moins un, alignée derrière lui sur les questions d'aide à l'Ukraine par rapport aux réfugiés. Sur la question de l'armée, des soldats français, il y a un panorama politique qui est un peu plus différent, mais en tout cas, sur la question des réfugiés, Emmanuel Macron a réussi à faire plus ou moins l'unanimité.
On va maintenant se détendre un peu avec notre rubrique « À table ». Cette semaine, Audrey Bourget vous propose de découvrir la pâtisserie Secret du jour. Elle est installée en périphérie de Melbourne et Audrey s'est entretenue avec son copropriétaire Hag Hunting.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bonjour, ici Audrey Bourget, de retour avec un nouvel épisode d'À table Kitchen Conversations. Aujourd'hui, on se rend à Camberwell, en banlieue de Melbourne. C'est là qu'on retrouve la pâtisserie Sucre du jour, qui mélange avec brio influence française et asiatique. On a rencontré le chef pâtissier et copropriétaire, Hag Hunting. Durant ses études de cuisine en Malaisie, Hag Hunting n'avait de l'intérêt que pour une chose, les desserts.
I'm French trained. I really enjoy the French pâtisserie and seeing how it has evolved over the time to what it is today, in a sense that it's more defined. It's very different from the Australian style, if you've noticed. So it's a more fresh, a lighter flavor. It's not too rich, but very seasonal, you would say it. So it's something I really enjoy.
Après ses études, il travaille comme chef pâtissier à Singapour sous la tutelle de plusieurs excellents chefs, dont Joël Robuchon. Une expérience intense mais enrichissante.
Very intense. I'm not gonna lie. I'm sure if you met other chefs, you've worked with very intense. Like, obviously everything's precision, everything's very detailed. Discipline is something we learn along the way. Obviously, very, very important.
Il arrive ensuite à Melbourne où il travaille à l'Hôtel Gitan. Mais depuis le début de sa carrière, il n'a qu'une chose en tête, ouvrir sa propre pâtisserie.
Not gonna lie, every chef wants to do their own thing, not gonna lie. Who doesn't want to do their own thing? But at that point, when I was in Melbourne along the way, along my working years, I did travel a fair bit to Europe. I did travel not only Europe, actually, like Japan and like New York. And seeing how the thing about being in a restaurant is that the pastry chef never really gets the highlight, never really gets the full chance to showcase their talent and skill. Obviously, it's more for the cuisine chef, which is fair. It's totally fine. And then having your own patisserie is being able to translate your own kind of style, your own kind of products to your customers in your own way and in your own fashion. And that is something that has always been my dream to start with. Just to be able to share what we really like and what we really can do to our guests and our customers. And so that developed along the way.
En juin 2020, son rêve prend forme. Avec sa partenaire Josephine Tan, ils ouvrent les portes de Sucre du jour à Camberwell.
As you know, that Sucre du jour is not a word. It's, you don't see it in France, you have it. But we got the idea from, because our style as, my style when we do it, is we just keep creating things on and off the menu changes. I won't say menu changes, but new products just keep coming on whenever we like. So it came similar to what the restaurants do, like, you know, their menu du jour, they have for the special of the day. And then because our style keeps, we keep introducing new products here and there. So we're like, why don't we do that du jour thing for sweets? And then we combined it together, and like, well, it seems to have a nice ring to it. And then that we stick true to that style until today. We make sure that we come up with new products along the way. You change the menu pretty often as opposed to a lot of other pastry shops that you'll see. Like what you see in France, really, how fast they introduce new cakes, they go with the seasons, they just keep the customers engaged. So you won't really see one cake sticking around for like 2 years. We do our best to just keep rotating stuff like that. And that's how that name came about.
Chez Sucre du jour, Hag Hunting marie son amour de la pâtisserie française et des saveurs asiatiques. celles avec lesquelles il a grandi, mais aussi celles qu'il a découvertes durant ses voyages.
What really, kick-started that whole style was when we traveled to Japan. Not only France, don't get me wrong, like Japan, we noticed the patisseries there as this really style that they share in common. It's very light, very fruity, not as opposed to what we used to get here in Melbourne or in Australia. It's like a lot of, it's really rich, really fattening, a lot of coloring. I'm not dissing out on any of the patisseries, but this is just the style that we tend to follow. Too much coloring, it's too much mousse and too much cream, too sickening because it's either too much chocolate. And then so we said, that's not the style that we enjoyed when we traveled. Like we went to France, you know, you could see every patisserie having like, obviously being summer, you have a bountiful of fruits all around the shop, and it's the using nature's own beautiful ingredients and products. You just highlight it in that way. Being a chef, you utilize it and we highlight it. So we adopted that style. We brought it to our shop. We use not being Malaysian background, we had the heavy influence of a lot of different Southeast Asian flavors that we take into our we put on board our shop, but also we use a lot of Japanese, Korean flavors are what we see is trending, and we just try to incorporate it. And also during our travels to Europe, we've noticed that in Europe, they've actually started to get a lot of this Asian influence in their product. You see a lot of them using like Sichuan pepper from like even Sarawak black pepper, obviously pandan, not too crazy. And durian, obviously, because they can't replace cheese with durian, but that's just you can choose one. But even some start to see using taro, sweet potato. I've seen in some of the pastry shops, not too much, but like chestnuts being there, but you incorporate the chestnut with a lot of other Japanese flavors, like a mix of the purple sweet potato. We've seen that happen as well. So we just try to have that in our shop, in our business as well. And obviously me being Southeast Asian background, I would say it's a lot easier for me to do that because I grew up with all those flavors. So a lot of people say like, are you restricted to just Southeast Asian flavors? I would say no, because we did use other like heavy French flavors, like we were using tonka flavor, and the very classic vanilla and salted caramel.
Il recommande sa tarte au citron qui n'a rien de traditionnel.
Called it the limon tart because it's lemon and lime, but also it has yuzu. So as you see in most patisseries, you need to have a lemon tart. But everyone here does it the same. So it's either baked custard, which is I find the Australian style, or else if you go to France, you see everyone uses a nice, very light curd. So for me, we said you need to have a lemon tart, but we need to make sure it's not the same as everyone else. So we said, why don't we combine all the citrus fruits we can find, lemon, lime, and yuzu, and which we did. So that's definitely our signature dessert that we will live and die with. We will never take it off. It's got a good balance of lemon marmalade. We use we candy the whole lemon. So we use the whole fruit by itself. We don't just use the puree or the juice or just the zest. We use the peel. We make a jam from it. We use the actual flesh. We slice it up and we cook it to make a candied lemon. And we use the juice in addition to yuzu juice to make a curd. And we use a lime aroma and lime zest to make a lime shanty. Like you'll taste the full flavor of citrus inside.
Chez Sucre du jour, vous pouvez aussi essayer une babka matcha et sésame, un croissant litchi framboise ou une tarte aux noix de macadamia et céréales. Au départ, il n'y avait que Hagen et Joséphine derrière le comptoir de Sucre du jour, mais l'équipe s'est agrandie de plusieurs chefs dans la dernière année et demie. C'est parce que les habitants de Camberwell ont accueilli Sucre du jour à bras ouverts.
Our customers come back a lot, so we're really very grateful for that. It's good to see people really enjoy eating cake. That's something I really enjoy.
Vous pouvez retrouver Sucre du jour au 436 Burke Road à Camberwell et sur le web au sucredujourofficial.com.
Chaouki, lève-toi comme les frostes, l'aile mange pas de GS, toujours le fil au fétiche, au McDo, bitches, je contrôle mon BS, même en période de crise.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau de Safe You qui s'intitule Molotov 4. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions, de nos interviews et de nos reportages en podcast sur votre plateforme de streaming audio préférée. Vous pouvez même vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode SBS French. Mais si vous préférez le direct, notre prochain rendez-vous sur les ondes, ce sera samedi à 13h précise. Je vous souhaite d'ici là une excellente après-midi. Et si vous vous trouvez dans une zone à haut risque d'inondation, je vous en prie, faites attention à vous et à vos proches. Je vous dis à très bientôt.
C'est pas, c'est comme A.A.S. La classe qui te casse. Ma voix t'es ra-as. Grouille, ça tracasse. Je suis la as des A.A.S. Putain t'es nas, tra-as. Je rêve d'un bol A.A.S. Au bas à ma as. Pour l'instant je ramasse des billets, je viens de la casse. Tu connais mon plan as.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.